Voilà, merci pour la prière de Robert, parce que il a dit que personne ne se sente au-dessus, qu'il n'y ait pas des gens qui sont plus grands et même des gens qui sont plus faibles aussi. Et c'est le thème de mon message ce matin. Et j'aimerais commencer tout simplement en vous parlant d'un chant que j'apprécie, que vous devez apprécier aussi, un chant qui est tout simple, c'est « Je te donne tout ». Un chant qui a été écrit par Luc Dumont. Et dans ce chant, il est dit « Je te donne tout, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce chant. Je ne sais pas pour vous. Alors, je vois des têtes qui disent oui. Et je pense que les têtes qui disent oui, c'est par rapport à « Est-ce qu'on donne vraiment tout ?» Est-ce que, quand on dit dans ce chant « Je te donne tout », est-ce qu'on donne vraiment tout au Seigneur ? Mais en fin de compte, ce n'est pas cela qui m'interpelle le plus dans ce chant. C'est « Je te donne ce qu'il y a de meilleur. » Je te donne ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer Dieu uniquement avec nos bons penchants ? Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer Dieu uniquement avec nos beaux comptés ? Ne croyez-vous pas plutôt qu'on peut aimer Dieu aussi bien avec les bonnes et les mauvaises choses ? Je te donne le tout, je te donne ce qu'il y a de meilleur. Vous savez, il est marqué dans la parole, et c'est les Hébreux qui l'ont reçu, cette parole au tout départ, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Est-ce que vous croyez que c'est uniquement avec nos bons penchants ? Je te donne le tout, mes bonnes choses. Puis les choses mauvaises, bien écoute, je les évacue, je les néglige, je ne les regarde pas. Quand on dit « Je te donne le tout », c'est aussi bien les bonnes comme les mauvaises choses. C'est un tout. Le peuple hébreu, quand il disait « J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute ma pensée », c'est toute la personne, c'est tout ce que nous sommes. Et on ne donne pas au Seigneur que nos bonnes choses. Sinon, on fait comme les pharisiens, on regarde que le positif en nous, le négatif, on le met de côté, et on n'a plus besoin de salut. Donc, je te donne tout. Et là, je crois qu'on touche un point dans notre vie chrétienne. On aspire tous, quelque part, à un idéal. À un idéal. Et l'idéal de la vie chrétienne, des fois, on aimerait être plus accueillant, on aimerait être de telle ou telle manière. Et quand on est dans cet idéal, ce que l'on fait... Ça va, vous m'entendez ? Est-ce que je vois ? C'est bon, les réglages. Quand on est dans cet idéal, ce que l'on fait, on évacue facilement le négatif. Aspirer à une vie bonne, ce n'est pas seulement vivre sans négatif. Est-ce que vous comprenez ça ? Aspirer à quelque chose de bon, ce n'est pas forcément vivre sans négatif. Parce qu'on est fait de bon, mais aussi de choses moins bonnes, de négatif. Et à vouloir vivre uniquement dans le recueillement de ce qui est bon, eh bien, on s'ampute quelque chose. Et on n'est pas forcément dans la vérité. Ça paraît peut-être basique ce que je dis, mais... Le vouloir vivre uniquement dans quelque chose de bon, on s'ampute certaines choses de nous-mêmes et on ne vit pas dans la vérité. Parce qu'on est constitué aussi bien de lumière que de ténèbres. On peut aussi bien aimer que haïr. Et vouloir retenir seulement ce qui est bien, eh bien, on n'est pas dans la vérité. Alors la grande question, et puis vous savez, vouloir vivre des choses bonnes, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour cela. Les gens, même à l'extérieur, recherchent à vivre bien. D'une bonne façon. Alors comment, nous en tant que chrétiens, comment vivre ce négatif, ces choses mauvaises en nous ? Alors pour cela, nous allons lire un passage qui nous parle d'un personnage du Nouveau Testament qui, dans sa vie, a fait face à du négatif par l'intermédiaire d'une blessure, d'une écharpe. Donc vous savez de qui je vais parler ? Je vais parler de Paul. Et j'aimerais, pour cela, qu'on fasse une lecture. Et j'ai demandé à Robert s'il veut bien la faire. Donc, c'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, du verset 2 jusqu'au verset 10.
Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Amen. Amen. Donc c'est un passage bien connu. Et c'est vrai qu'au début des premiers versets, on peut se poser la question pourquoi Paul parle de lui-même à la troisième personne. Ça fait un peu bizarre. Je connais quelqu'un et en fin de compte, il parle de lui-même. En fin de compte, Paul, dans ce texte, il est parti du principe qu'il ne veut pas se vanter et donc il décale un petit peu les choses. Et c'est un petit peu les aléas du discours. Vous savez, des fois, on est tellement préoccupé de ne pas se vanter qu'on finit toujours par se vanter un petit peu. Et donc ça, c'est les aléas du discours. Mais bon, mon thème, ce n'est pas cela. Ce que nous voyons dans ces versets, c'est que c'est dans le contexte des Corinthiens. Et les Corinthiens, c'est souvent un contexte assez difficile. Hein. C'est un contexte assez conflictuel. Il y a des luttes, des incompréhensions. Et en plus, là, on est dans la deuxième épître aux Corinthiens. Donc on sait qu'auparavant, les Corinthiens ont reçu des visiteurs un petit peu déconcertants, déroutants. Des gens qui sont venus enseigner autre chose que la base de l'Évangile. Des gens qui sont venus, en fin de compte, apporter des soi-disant révélations, expériences des uns et des autres. Et ils sont venus, en fin de compte, gommer la parole de Dieu, ce que l'Évangile annonce. Des gens sont venus, ils sont intervenus dans cette assemblée et ils ont dit qu'ils avaient eu des révélations. Et cela est venu gommer l'Évangile. Je pense qu'aujourd'hui encore, on peut dire que, eh bien, il y a encore des pollutions. On peut recevoir une base solide sur l'Évangile. On peut être converti à l'Évangile. Et puis, il y a des moments où on peut recevoir aussi des enseignements qui sont seulement basés sur des sensations, des expériences qui ne vont pas avec la parole de Dieu. Mais une chose est sûre, ce que l'on sait, c'est que les Corinthiens sont complètement déboussolés. Ils sont déboussolés. Et Paul veut les remettre dans le droit chemin. Il veut leur redonner un enseignement pour les remettre sur le droit chemin, pour les enlever de ces faux enseignements qu'ils ont reçus. Et on sait que les Corinthiens, en fin de compte, ce qu'ils font, ils remettent en cause l'autorité de Paul. Hein, si vous lisez, les deux Corinthiens, ils remettent l'autorité de Paul, et donc ils remettent un petit peu l'enseignement qu'ils ont reçu de la part de Paul. Et Paul, ici, il a affaire à des gens qui leur posent des questions pénibles. Des questions pénibles. Paul essaye de répondre à des gens qui lui disent finalement « Que fait Dieu dans ma vie ?» Donc ils disent à Paul « Écoute, tu nous as enseigné dans la première lettre aux Corinthiens que Jésus-Christ était plein de grâce, de miséricorde, et comment cela se fait-il alors qu'on vive encore tous nos problèmes ? On est fidèle au Seigneur, on est préoccupé de le suivre, mais par contre, on a encore des problèmes dans notre vie. Nous, en devenant chrétiens, quelque part, on s'est dit, on va devenir chrétien, on ne va plus avoir de difficultés ou de problèmes. Alors comment cela se fait-il ? J'ai décidé de tout abandonner, d'arrêter, je veux essayer de le suivre, et comment cela se fait-il que le Seigneur ne me retire pas ses souffrances. Alors, je ne sais pas si ça vous interpelle, ce genre de conversation, mais des fois, on peut se poser ce genre de questions. Comment ça se fait que que Dieu ne me retire pas telle ou telle souffrance. Et puis on va chercher les versets bibliques. Bon, il est marqué dans l'Écriture, Jésus a pris toutes nos maladies. Alors pourquoi pas la mienne? Pourquoi pas la mienne? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et c'est vrai que ce n'est pas facile des fois de voir ces histoires de gens qui suivent le Seigneur et qui ne sont pas guéris. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au temps de Jésus-Christ, quand il était sur terre, on sait tout à fait que les gens continuaient à être malades et que les gens continuaient aussi à mourir. Donc, Paul fait partie de ces gens-là. Et excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu familier, mais c'est seulement pour vous dire un petit peu ce que Paul prêche, ce que Paul vit. C'est que, en fin de compte, il a encore quelque chose en lui qui est pourri. Il a encore quelque chose en lui qui le fait souffrir et qui lui pourrit l'existence. Et il appelle cela une écharde. Il y a quelque chose en lui qui le fait souffrir, une écharde ou une blessure, suivant les traductions. Et on ne sait pas exactement à quoi correspond la souffrance de Paul, à quoi correspond cette écharde et cette blessure. La Bible ne nous le dit pas. Mais par contre, il y a des théologiens qui ont beaucoup discuté sur l'écharde. Je ne sais pas si vous avez pu lire des commentaires. Il y en a certains qui disent que c'est une maladie. Il y en a d'autres qui disent que c'est plutôt une souffrance psychologique, quelque chose que Paul aurait été marié et qu'il aurait subi un divorce. Bon, il y a eu des tas et tas de choses qui ont été dites, mais la Bible ne nous donne pas, ne trouve pas intéressant de nous dire la cause de ces souffrances. Et tant mieux, quelque part, peut-être que Dieu aussi veut interpeller nous aujourd'hui et que chacun puisse s'identifier peut-être à Paul à travers telle ou telle blessure. Vous savez, des fois, la parole de Dieu ne nous donne pas toujours des précisions. Moi, on le voit avec Jésus, quand il va guérir certaines personnes, il ne lui demande pas « qu'est-ce que tu as eu dans ton passé? Tu as vécu quoi comme chose ?» Non, il interpelle la personne et puis lui dit « écoute, saisis la foi et puis suis-moi. » Peut-être que des fois aussi, on n'a peut-être pas assez de précisions parce que on deviendrait des spécialistes et on dirait à la personne écoute, je vais essayer de t'enlever ton écharde. Peut-être qu'avant, il faut peut-être qu'on enlève notre poutre. Mais... Donc des fois, la parole de Dieu ne nous donne pas toujours des précisions. Mais Paul dit qu'il y a un truc dans son corps, quelque chose qui le fait souffrir. Il dit même que c'est un ange de Satan. Est-ce que vous vous rendez compte de cette parole? Il dit que c'est un ange de Satan qui vient enfoncer l'écharde. Et nous, on pourrait se dire... C'est Paul quand même. C'est lui qui est parti annoncer l'évangile sur la Méditerranée. Il suit le Seigneur d'une façon entière. Il a été frappé plusieurs fois. Il a connu des naufrages. Et puis, en fin de compte, il a une souffrance en lui. C'est comme un ange de Satan qui vient le faire souffrir. Et on pourrait se dire, mais c'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Seigneur, que fais-tu? Tu m'as oublié. Seigneur, tu m'aimes plus. Et Paul, à un moment, a crié à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Est-ce qu'il lui a dit, je vais te retirer ton écharde? Il lui a dit cette phrase qui est magnifique, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Paul n'a pas accès à la compréhension de sa souffrance. Et je crois le plus douloureux dans notre vie, quand on souffre, c'est de ne pas savoir, de ne pas avoir accès à ce qui nous fait souffrir, de ne pas savoir pourquoi, de ne pas avoir cette compréhension. Et Paul tient bon et il entend « Ma grâce te suffit ». Alors on pourrait dire « Seigneur, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la grâce plus la guérison ?» Et non, Dieu lui dit « Ma grâce te suffit ». Et cela nous est incompréhensible. Pourquoi? On ne sait pas. C'est incompréhensible. Et pourtant, Dieu a acquis des choses pour Paul. Dieu n'a pas acquis une vie de confort pour Paul. Avec un revenu universel jusqu'à la fin de sa vie, ou alors la sécu à 100%, comme on rêve en France. Non, il vit une vie avec des problèmes. Dieu a donné quoi à Paul? Il lui a donné une révélation, il lui a donné la vie éternelle. Amen. Ça, c'est beau, la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle? Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu n'a pas dit « Je vais enlever toutes vos écharpes ». Dieu n'a pas dit non plus « Je vais travailler à votre place pour remplir votre compte en banque ». Dieu n'a pas dit qu'il n'y a plus de difficultés dans notre existence. Il y a des difficultés dans notre existence et Paul a entendu « Ma grâce te suffit ». Vous savez, il y a un exemple dans l'Ancien Testament avec le serpent d'airain, c'est-à-dire qu'à un moment, le peuple hébreu a été mordu par des serpents. Et Moïse a fabriqué un serpent d'airain, il l'a mis sur une perche et tous les Hébreux qui regardaient ce serpent d'airain, eh bien, conservaient la vie. Et il n'est pas dit dans ce texte, et j'en fais un petit peu exprès là, il n'est pas dit que les serpents partaient. Hein ? Et je crois que dans notre vie chrétienne, on est sauvé si on regarde à la croix, mais il n'est pas dit que le mal, eh bien, s'en va. En fin de compte, ce qui est le plus important, ce n'est pas la disparition du mal, mais c'est que Jésus-Christ devienne central. Que Jésus-Christ devienne central. Ma grâce te suffit. Je vais dire une phrase qui va peut-être vous interpeller, mais Dieu n'est pas au service de notre épanouissement. Dieu n'est pas au service de notre épanouissement. Bien sûr qu'on devient chrétien, on a une grâce, une bénédiction, mais il n'est pas au service de notre épanouissement, c'est-à-dire d'un idéal, d'une chose idéale qu'on aimerait avoir. Il est au service de notre vie, hein, mais pas d'un idéal, l'idéal de telle ou telle chose. Des fois, on peut vivre dans l'image. On aimerait être comme ça, ainsi. Non, Dieu n'est pas au service de notre épanouissement. Ça, c'est les mouvements New Age à l'extérieur, l'épanouissement de ceci, etc. Mais attention, quand Dieu agit dans une vie, il donne des choses. Il fortifie, il nous donne une assurance. Mais l'épanouissement qu'on peut ressentir à l'extérieur, non, ça, Dieu ne veut pas nous donner ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, imaginez que dans notre vie, il n'y aurait plus de problème? Qu'est-ce qui se passe, d'après vous? Est-ce que vous croyez qu'on continuerait à se tourner vers Dieu? Non. Et le jour où il n'y aura plus de difficultés, ça sera le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Mais en attendant, ce n'est pas ainsi. Et aujourd'hui, aucune église visible, aujourd'hui, n'est le royaume de Dieu. Donc, soyez bien d'accord avec cela. Aucune église visible n'est le royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que comme pour l'individu, comme par rapport à ce qu'on a lu, ce lieu de faiblesse qui est maintenu par Dieu impose aux églises visibles de ne pas se prétendre les églises invisibles. Hein ? Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a des réflexions qui sont données à cette église, mais c'est pour dire aussi que les églises visibles ne sont pas les églises invisibles. On ne peut pas se prétendre une église comme le royaume de Dieu. Hein ? Ce serait vraiment quelque chose d'arrogant. Donc de la même façon que Paul avait cet écharme, eh bien, dans les églises dans lesquelles vous allez pouvoir passer, il y aura aussi des difficultés, des choses. Pourquoi ? Parce que si une église n'a plus ça, bah, tout de suite, ils vont se croire le royaume de Dieu. Donc, vous m'avez compris que toute personne ici, on a tous des problèmes. On a tous, quelque part, des écharmes. Et chaque personne doit être prise au sérieux par rapport aux problèmes qu'elle a. On n'a pas à comparer nos problèmes. Tiens, t'as quoi comme problème, toi ? Bah, moi, j'ai tel problème. Ah, bah, j'ai plus de grâce que toi. Donc, on n'a pas à comparer nos problèmes. Mais par contre, on doit avoir cette écoute des problèmes des uns et des autres. Vous savez, il y a des personnes, des fois, qui sont riches. Et puis, quelqu'un peut dire, bah, ça, c'est des problèmes de riches. Oui, mais la personne doit être prise entièrement, doit être comprise dans ses problèmes. Donc, nous avons tous, quelque part, des problèmes et tous des écharmes. Mais cela ne veut pas dire non plus, et je ne veux pas que vous ressortiez de ce lieu en disant que bon, c'est ainsi, c'est fatal. Non, il y a des problèmes qui vont être résolus de la part du Seigneur, bien sûr. Mais si vous regardez les évangiles, les guérisons dans le Nouveau Testament sont souvent données pour nous donner un enseignement. Hein, ce n'est pas magique. Poc, 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 ça y est, voilà, tout est fini. Non, ce n'est pas magique. Il y a toujours quelque part un enseignement. Et souvent, les guérisons sont associées à un temps précis pour que la personne puisse s'engager avec le Seigneur. Hein, il y a des guérisons qui sont données, des choses qui sont données pour donner comme d'aller de l'avant au niveau de la communauté, au niveau de la personne. Et ça, ces manifestations de guérison, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. Et les gens du Nouveau Testament, quand ils vivaient ces choses-là, ils vivaient des guérisons, il ne nous est pas dit qu'après, ils n'ont plus eu le rhume en hiver. Ils ont continué à avoir aussi des difficultés. Quand Lazare est ressuscité, il ne nous est pas dit qu'il est resté, qu'il n'est pas mort un jour. Donc ces guérisons, c'est le signal de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas nous qui l'administrons. On ne l'administre pas. C'est donné à un moment ou à un autre. Dieu est souverain. On ne sait pas ces choses-là. On ne connaît pas, on ne maîtrise pas, on ne donne pas. La seule chose, et ça j'aimerais que c'est un enseignement, la seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous tenir disponibles. De nous tenir disponibles. Disponibles pourquoi ? Pour notre guérison, mais pas uniquement, mais aussi pour celle des autres. Surtout pour celle aussi des autres. Pourquoi je dis surtout aussi pour celle des autres ? Je vous donne un exemple. Par exemple, vous êtes dans votre vie chrétienne et puis d'un coup, vous avez plein de problèmes, plein de difficultés. Et le Seigneur t'interpelle en disant, écoute, telle personne, va la voir, prie pour elle. Elle a besoin d'une guérison, va la guérir. Souvent dans l'Évangile, il nous est demandé d'aller guérir. Va la guérir, prie pour elle. Est-ce que vous allez répondre, écoute Seigneur, moi d'abord et ensuite on verra. Non. Je crois que Dieu veut aussi nous donner un message. À travers ça, c'est de plus trop se centrer sur soi-même. Vous avez des écharpes dans votre vie. Vous avez des écharpes. Arrêtez de vous focaliser sur vos écharpes. Ma grâce te suffit. Et si Dieu t'interpelle pour aller poser ta main pour aller guérir quelqu'un d'autre, vas-y. Que nous ne soyons pas ceux qui disent « moi d'abord et après on verra ». Vous savez, j'ai entendu le témoignage d'un couple pastoral qui, pendant 15 ans, n'ont pas pu avoir d'enfants. Et puis, ce couple, souvent, ils ont prié pour des couples qui n'arrivaient pas à avoir des enfants pendant une quinzaine d'années. Et dès qu'ils priaient pour ces gens-là, 10 mois après, ils avaient un faire-part. Et cette personne-là, maintenant, il peut en témoigner de ça. Mais il disait que c'était difficile. À chaque fois, pour eux, c'était compliqué. Ils priaient pour des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et eux, depuis 15 ans, ils n'arrivaient pas à en avoir. Et à chaque fois, ils entendaient cette phrase, « Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. » Que Dieu puisse nous retenir aussi dans notre langage pour qu'on évite de dire « c'est pas juste, c'est pas juste ». C'est facile, hein, mais qu'on puisse le vivre. Qu'on puisse vivre par cette grâce. La grâce, quelque part, c'est quelque chose qui est injuste. Est-ce que vous croyez que la grâce est juste ? Pourquoi je dis ça ? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on se dit que tel délit, c'est telle amende. Que tel crime, c'est telle punition. Mais la grâce de Dieu, c'est les prostituées, les collecteurs d'impôts, en premier dans le royaume de Dieu. Les prêtres, les lévites, eh bien, en dernier. Et c'est vrai que, suivant nos catégories, la grâce de Dieu n'est pas juste. Mais la grâce de Dieu ne doit pas être là pour qu'on l'évalue. La grâce de Dieu, elle est là uniquement pour qu'on puisse la recevoir. Qu'on puisse recevoir la grâce de Dieu. Souvent, je vous disais, des fois, on est fixé sur quelque chose qu'on n'a pas obtenu. On a une blessure. Seigneur, guéris-moi là-dessus. Mais à côté de ça, Dieu nous bénit. Il nous donne des tas de choses. Et nous, on reste focalisé sur notre projet, notre vision. J'aimerais que, tout simplement, ce matin, vous receviez cette grâce. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Là, on va parler aussi de l'un des combats des Corinthiens. L'un des combats des Corinthiens, et je pense qu'on peut se poser aussi cette question, c'est est-ce qu'on veut être des gens qui vivent par la grâce ? Ou alors, est-ce qu'on veut être des gens qui vivent par le spectacle de la multiplication de miracles pour nous-mêmes ? Hein ? Ça, c'était le défi des Corinthiens, c'est que, quelque part, Ils aimaient bien ce qui était clinquant, qui était brillant, quelque chose qui des miracles, mais pas des miracles pour construire l'assemblée, des miracles pour soi-même. Des miracles qui sont, en fin de compte, pour l'ego, pour soi. Et c'était ça l'enjeu pour Paul. L'enjeu pour Paul, c'était ça. Ma grâce te suffit, c'est que Paul arrête de te préoccuper de toi-même. Ma grâce te suffit. Paul arrête de te préoccuper de toi-même. Alors, je ne veux pas être sévère vis-à-vis de Paul, mais... Allez, je vous avoue quelque chose. J'ai eu du mal, moi, avec Paul, au départ. J'ai eu du mal, parce que je le trouvais un peu prétentieux. Je parle plus en langue que vous tous. Bon, d'accord, ok. Mais bon, on n'est pas là pour le juger. La parole est là pour nous donner des exemples. Et vous savez, des fois, Paul, il disait à un moment, « Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. Voilà. »« Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. » Et quand on voit la vie de Paul, il y a des moments aussi avec un personnage qui s'appelle Jean-Marc dans les Actes des Apôtres. Il y a une mission, ils partent en mission avec Barnabas, et puis Jean-Marc part en mission. Et au début du chemin, Jean-Marc fait demi-tour, il retourne chez lui. Pourquoi ? Je ne sais pas, il retourne voir sa maman. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu un conflit avec Paul. Paul, c'était quelqu'un qui était assez sanguin, assez fort au niveau caractère. Et à un moment, ils repartent en mission et Barnabas dit à Paul, écoute, on prendrait bien Jean-Marc. Il dit non. Non, je ne prends pas Jean-Marc. Il n'a pas été à la hauteur. On ne le reprend pas. Et Barnabas l'a pris, Jean-Marc. Et gloire à Dieu, Jean-Marc a été encouragé dans cette mission. Et aujourd'hui, si on a l'évangile de Marc, c'est grâce aussi quelque part un peu à ça. Si on a l'évangile de Marc aujourd'hui, c'est grâce à ça. Parce que Jean-Marc, c'est Marc de l'évangile. Et donc, Paul dit, Alexandre le forgeron m'a beaucoup fait de mal. Et je crois qu'on est tous un peu comme ça. On arrive facilement à voir ce qui nous déplaît, ce que l'autre nous a fait. Mais nous-mêmes, on a du mal à voir ce qu'on peut faire aux autres. Et on a besoin d'être dépréoccupé de soi-même. Ma grâce te suffit. On a besoin de se dépréoccuper de soi-même. Et Paul, s'il avait cette écharpe, c'est parce qu'il avait un terrain à être orgueilleux. À un moment, il allait plus se sentir, il allait croire que c'est par sa foi qu'il est fort, alors que c'est Dieu qui est fort. Donc, il y a certains problèmes qui seront résolus dans notre vie et d'autres problèmes qui ne seront pas réglés. Et c'est normal. C'est bizarre hein, comme discours ce matin. C'est normal. Et si quelqu'un vous dit un petit peu facilement « tous tes problèmes seront résolus », ben, moi, je l'affirme avec la parole, c'est un menteur. C'est un menteur. Le plus dur, ce n'est pas de savoir si vous allez vous en apercevoir au bout de 10 minutes, mais si vous l'apercevez au bout de 10 ans. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans nos églises avant de comprendre qui sont les menteurs. Qui sont les menteurs. Il y a des problèmes qui vont être résolus. Amen. Et ça, on prie pour cela. Mais il y a d'autres choses qui ne seront pas résolus. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien avec Paul. Et vous savez, dans l'Évangile aussi, on voit certaines choses. Hein. À un moment, Jésus a dû se reprendre à deux fois, pour faire un miracle avec l'aveugle. Jésus, quand il était sur terre, il n'a pas guéri Pierre de son infidélité. Il a été infidèle par la suite. Et voilà, c'est ainsi. Il y a des choses qui sont comme ça. On n'a pas la pleine révélation de tout. Il faut qu'on arrête de penser qu'on connaît tout. Il faut garder quelque part cette non-connaissance. Parce que si on commence à penser qu'on peut maîtriser ces choses-là, ça veut dire qu'on pense qu'on peut maîtriser la grâce de Dieu. Et il faut se dépréoccuper de soi-même. Il faut tout simplement demander et recevoir ce que Dieu veut nous donner, et surtout pour les autres. J'insiste là-dessus, j'espère que le message est entendu. Ne vous préoccupez pas sans cesse sur vous-même. Ma grâce te suffit. Hein ? Voilà. Et surtout, recevez pour les autres. Vous savez, c'est dans ce mouvement-là que Dieu bénit. Quand on est dans cette dynamique de recevoir pour les autres, eh bien Dieu donne beaucoup. Il y a beaucoup de guérisons, il y a des miracles, des relèvements, il y a de l'espérance, il y a de l'amour. Mais dépréoccupe-toi de toi-même. Ma grâce te suffit. Et c'est quand Dieu veut et quand il le veut. Ce n'est pas comme dans le monde, ce n'est pas du tout la même façon. Donc il faut rester simple. Il faut savoir que c'est quand on est faible, quand on est petit, que la grâce de Dieu peut se manifester. Amen. C'est quand on est dans cette faiblesse que la grâce de Dieu peut se manifester. Et vous savez, ce dialogue-là, ce discours-là, c'est un discours qui est insupportable pour l'être humain. Et ça a été aussi insupportable pour Pierre, ce discours. Moi, je suis beaucoup touché par la faiblesse de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. J'aime beaucoup les actes de l'Esprit, les actes de Jésus-Christ sur cette. Mais j'aime beaucoup aussi cette facette de la faiblesse de Jésus-Christ. Et ça, c'est insupportable pour l'être humain. On préfère entendre des choses glorieuses, et Dieu fait des choses glorieuses, mais il y a aussi une part où Jésus a été faible. Et nous aussi, on passe par cette faiblesse. Jésus a fait de grandes choses, et c'est pour cela aussi que beaucoup de gens le suivaient. Il est fort, il fait de grandes choses, il a nourri 5000 hommes, il a ressuscité une petite fille de 12 ans, de 11 ans, il a ressuscité Lazare, il a cloué le bec aux pharisiens, et ça, Pierre, il aimait bien. Quand il voyait que Jésus clouait le bec aux pharisiens, il allait auprès de lui. Il a fait beaucoup de choses, il n'a pas eu de décalage, Jésus-Christ, entre ce qu'il vivait et ce qu'il disait. C'est quelqu'un qui était humble. Son attitude a été d'être auprès des petits et des pauvres. Il avait de l'amour, un amour agapé, un amour qu'on ne peut pas sonder. Et les gens le suivaient parce qu'il était fort, puissant. Et à un moment, il devient petit. Et ça, on le trouve dans l'Évangile. Il pleure. Il y a comme une sorte de vulnérabilité en Jésus-Christ. Et le pire, c'est quand il y a eu le lavement des pieds. Ça a été quelque chose d'insupportable pour Pierre. Jésus s'est mis à genoux, aux pieds de ses disciples. Et en fin de compte, il fallait que ses disciples aient les pieds lavés par Jésus-Christ, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, les apôtres n'ont pas pu saisir cette faiblesse. Ça a été insupportable pour eux de voir la vulnérabilité de Jésus. Ça a été offensant. Ils n'ont pas compris. Ça a été un scandale pour eux. Et en fin de compte, la souffrance de Christ va continuer jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Je ne sais pas si ça vous interpelle, cette faiblesse de Christ, mais c'est pour nous grandir. Ma grâce te suffit. Et si on commence à croire qu'on est fort de notre foi, eh bien, on va se prendre des écharpes. Avis aux amateurs. Mais si on a cette simplicité, ôtée d'orgueil, de quoi que ce soit, que c'est, on veut croire, Seigneur, on veut être comme un coquillage sur un rocher, on veut pas te lâcher, on veut, Seigneur, te comprendre pleinement, si on est dans cette attitude de lui faire confiance et qu'on sait que c'est pas facile, eh bien là, on peut compter sur Dieu. Quand on est simple, sans orgueil, quand on est sans prétention, sans maîtrise de tout, sans contrôle de chaque chose, alors à ce moment-là, Jésus-Christ peut nous saisir. Et Paul, ça, il l'a compris. Il a compris que c'est par la grâce de Dieu qu'il pouvait vivre. Avant, c'était l'épée, avant, c'était la force. Mais Paul a compris que c'était maintenant dans la simplicité, c'était dans la faiblesse, eh bien, qu'il pouvait recevoir les choses de Jésus-Christ. Alors le message ce matin, c'est qu'on évite d'être centré sur nous-mêmes. Il y a des choses qui sont subtiles dans la vie chrétienne. Je me rappelle d'un pasteur du sud de la France qui disait que des fois, il était un peu agacé qu'il y a des chrétiens qui viennent lui dire « Écoutez, pasteur, j'ai donné tel témoignage cette semaine, j'ai fait telle chose, j'ai donné... » Et quelque part, il se disait « Ben oui, mais c'est la vie du chrétien. C'est la vie du chrétien. » Et des fois, est-ce que ce n'est pas pour soi-même qu'on dit ça ? Est-ce qu'on ne veut pas se valoriser en cherchant une attention du pasteur, une attention d'un être humain, un regard? Est-ce que ce n'est pas d'une façon égoïste qu'on le dit? Alors qu'on doit le faire, mais en toute simplicité, sans pour cela en rajouter. Il y a des choses qui sont subtiles. Il faut qu'on se dépréoccupe de soi-même. Il faut qu'on soit à l'écoute. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience. Des fois, vous avez des difficultés, vous allez vers un frère ou une sœur, vous parlez de vos choses... des choses qui touchent votre vie, et puis vous avez l'impression qu'il ne vous écoute pas. Vous avez l'impression qu'il veut vous donner ce qu'il a vécu, lui. Alors qu'on soit dépréoccupé de soi-même. Hein, Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute, de retirer cet ego qui est en nous. On est tous un peu des pôles, hein, quelque part. Et ça, c'est difficile. Il faut vraiment que cet orgueil, cette chose, soit retirée. J'aimerais terminer par un chant. J'aimerais qu'on prenne ce chant, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ça va au niveau du temps, je ne suis pas... Et j'aimerais, durant ce chant, permettre à certains peut-être de répondre d'une façon, dans le recueillement, de répondre à la grâce de Dieu, hein, tout simplement. On va pouvoir prendre ce chant, les instruments vont commencer à jouer tout doucement, et je vous demande si on peut se recueillir quelques instants. Je vais faire un appel tout simple. Faire un appel. J'aimerais qu'on laisse ce temps aussi pour que... Ce que je désire, c'est que c'est la parole de Dieu, l'Évangile. L'Évangile qu'on a pu voir, que Robert a lu ces passages, que cet Évangile soit au fond de notre cœur. Je voudrais interpeller ce matin peut-être à une personne qui a compris certaines choses et qui peut pleinement ce matin accepter « Ma grâce te suffit ». Peut-être que ce matin, une personne obtiendra la guérison uniquement parce qu'elle va comprendre qu'elle ne peut pas savoir, elle ne peut pas accéder à ce qui l'a fait souffrir. Peut-être qu'une personne ici veut seulement obtenir la guérison par cette phrase « Ma grâce te suffit ». Il y a des gens qui ont, depuis des années peut-être, il y a une souffrance qui est là dans ton cœur, il y a des incompréhensions, des choses qui te font douter de ta vie chrétienne. Et je voudrais que tu prennes tout simplement cette phrase ce matin et que tu puisses vraiment la prendre pour toi. Ma grâce te suffit. C'est un acte de guérison. Ma grâce te suffit, c'est un acte de guérison. Même si, eh bien, comme on a pu le lire, les serpents ne sont pas... on suppose que les serpents ne sont pas partis, mais que les yeux ont été fixés sur la croix. Eh bien, ce matin, reçois simplement cette phrase. Ma grâce te suffit. Tu n'as pas obtenu la guérison voulue, mais... La grâce de Dieu est là pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il te dit simplement ce matin que même si tu souffres par rapport à ces choses-là, il a son cœur auprès de toi. Il a son regard sur toi et ne t'oublie pas. Ma grâce te suffit. Je voudrais aussi prier pour certains qui sont peut-être dans cet état, qui ils sont uniquement fixés sur leurs problèmes. Ce qu'il y a dans leur vie, ils ne voient que cela. Ils voient uniquement... le problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, alors que tu passes à côté de grandes bénédictions de Dieu. Dieu te demande de mettre ça de côté et te dire « Ma grâce te suffit ». Occupe-toi du royaume de Dieu, occupe-toi de ton frère et ta sœur, occupe-toi de ce que tu peux recevoir pour les autres. Un message pour les autres. Paul a souffert dans son corps. Paul a prié par 3 fois pour que cette écharpe soit retirée. Et Dieu lui a dit simplement « Ma grâce te suffit ». Ma grâce te suffit ce matin. Dis-le dans ton cœur, ma grâce dans ton cœur, ma grâce te suffit. Par rapport à ce que tu peux vivre dans ta vie, ma grâce te suffit. Mets ça de côté, Dieu s'en charge, ma grâce te suffit. Mais toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Que Dieu puisse agir dans notre assemblée, qu'on ne soit pas centré sur nous-mêmes, qu'on ne soit pas replié sur nos problèmes, qu'on ne soit pas en vase clos, mais qu'on puisse... répandre la grâce de Dieu autour de nous. Pas moi d'abord, mais Seigneur, que tu puisses bénir les autres. Comme le dit ce chant, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient sur toi, pour t'aider à marcher sur ses pas, pour marcher dans sa lumière. Pas pour moi, mais pour les autres. Qu'on puisse se bénir les uns les autres et qu'on puisse se retirer d'être centré sur nous-mêmes. Qu'on soit centré sur Jésus-Christ. Le mal ne s'extirpe pas, le mal ne se retire pas, mais mon regard a changé ce matin. Mon regard change parce que je veux regarder uniquement à toi. Ma grâce te suffit. On ne vit pas dans quelque chose de spectaculaire. Ce sera quand on sera au ciel que tous nos fardeaux, toutes certaines choses seront résolues. quand on sera là-haut avec toi, mon Dieu. Mais aujourd'hui, on vit sur cette terre avec nos difficultés. Et ce que je veux chérir dans mon cœur, c'est ma grâce te suffise. Ta grâce de Dieu. Alléluia. On va pouvoir le chanter. Que la grâce, on va pouvoir se lever aussi. Amen.
Que la grâce et la paix du Seigneur soient. Que ça.